Chers auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue dans Capi Service, votre magazine qui traite les questions de la vie au quotidien. Les troubles psychiatriques, quelles sont les causes et comment les soigne-t-on? Nous en parlons avec le chef des travaux, Jean-Marie Kanchama, il est neuropsychiatre. Jean-Marie Kanchama, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Capi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, envoyez-nous des vives voix, vos commentaires sonores sur WhatsApp au numéro 099-706-9941. Par SMS, envoyez vos questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans le courriel dénommé service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Marcel Gombo réalise et coordonne cette émission et Mimi Kindou s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute de ces numéros d'Okapi Service.
L'actualité en profondeur sur Radio Capi, c'est dans Grand Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les acteurs qui font l'actualité et les spécialistes. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, dimanche à 11h05 et mardi 14h15.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Les troubles psychiatriques, quelles sont les causes et comment les soigne-t-on? Nous en parlons dans cette première partie d'Okapi Service. Les troubles psychiatriques et de santé mentale constituent un problème de santé publique d'envergure à Kinshasa et dans d'autres villes de la RDC. De plus en plus, des études démontrent que la consommation de drogues comme le cannabis et des liqueurs fortement alcoolisés augmentent les risques de vivre des épisodes psychotiques selon les spécialistes en santé mentale. Quelles sont les causes majeures des troubles psychiatriques et comment se fait l'accompagnement socio-médical des personnes affectées par ces maladies psychiatriques? Nous en parlons dans cette première partie du magazine Okapi Service avec le chef des travaux, Jean-Marie Kanchama, il est neuropsychiatre. Docteur Jean-Marie Kanchama, pouvez-vous d'entrée de jeu définir d'abord ce qu'on entend par les concepts maladies psychiatriques?
Merci beaucoup. Ce qu'on entend par maladie psychiatrique, c'est tout simplement des perturbations mentales qui survient à tout âge et qui pousse quelqu'un à présenter un comportement dit anormal. C'est quoi, par exemple, c'est quelqu'un qui devient impulsif alors qu'il ne l'était pas avant. Mmh. C'est quoi également, c'est quelqu'un qui était bien socialement et qui se retrouve en retrait par rapport à la vie sociale. C'est quoi exactement, c'est quelqu'un qui perd les repères de la vie. Et lorsqu'on perd les repères de la vie, on n'est pas stable. Et tout ça constitue effectivement des perturbations psychiatriques. Mais il faudra signaler effectivement que quand les crises arrivent, il faut toujours interroger les antécédents du malade, parce que il y a dans certaines familles ce qu'on appelle les facteurs héréditaires qui jouent.
Oui.
Il y a des facteurs qu'on appelle des facteurs acquis. Et ces facteurs acquis peuvent être tout simplement ceux qui utilisent abusivement certaines drogues, vous en connaissez, les enfants qui prennent le chanvre. Mais aussi, il faut dire que les troubles psychiatriques peuvent survenir chez n'importe qui. Quand quelqu'un se retrouve dans des situations assez difficiles, complexes, et qu'il n'a pas le soutien de son entourage, le soutien du monde extérieur, la personne peut perdre les pédales et faire le trouble de comportement. Et l'exemple, en fait, c'est ce que nous avons vécu avec le Covid. Mmh. Vous avez remarqué que le Covid a augmenté les cas de troubles de comportement parce qu'on était tous soumis à des stress et certains organismes ont réagi différemment et les gens ont présenté des dépressions. Il y a des gens qui ont présenté des états d'agitation avec des comportements tout à fait variés.
Oui, docteur, mais est-ce qu'en dehors de l'hérédité, de la consommation de certains stupéfiants et de certains événements qui surviennent dans la vie, il y a d'autres facteurs qui peuvent entraîner les troubles psychiatriques?
Oui, les facteurs sont multiples, mais je les ai résumés en trois grands groupes.
Oui.
Ce que j'ai appelé les facteurs de prédisposition héréditaire, c'est-à-dire que quelqu'un on voit jaillir un trouble de comportement tout simplement parce que dans leur famille il y a deux ou trois personnes qui ont présenté des troubles similaires. Ça peut être quelqu'un qui est enclin à une difficulté dans la vie et vous en connaissez, quelqu'un qui a perdu par exemple
un être cher.
Peut être en difficulté et présenter effectivement, si son cerveau n'est pas assez fort, et présenter effectivement un changement de comportement, mais ça peut être aussi induit dans certaines circonstances difficiles. Lorsque la personne, par exemple, a été agressée injustement et qu'il n'a pas pu supporter cela, ce qui se passe, par exemple, dans les territoires où il y a la guerre.
Oui, à l'est du pays, par exemple.
Dorment à la belle étoile parce qu'on les a obligés, effectivement, de quitter leur toit. Il y a les âmes qui crépitent, il y a des gens qui ne supportent pas cela. Et on peut faire facilement un trouble de comportement. Mais aussi, la catégorie, surtout avec la jeunesse, cette grande catégorie où beaucoup de jeunes s'adonnent à des substances psychoactives, et vous en connaissez, ils mélangent beaucoup de choses, le chanvre, le cannabis, la guenée, et on a parlé dernièrement de Bombay, et non seulement ça, ils recourent même à des substances médicamenteuses, notamment le tramadol. Tout cela, lorsque ces drogues ont un impact sur le cerveau, peut effectivement modifier le comportement de quelqu'un et vous amener dans les troubles de comportement ou réveiller un trouble de comportement qui était latent. Parce qu'il y a des personnes qui, par le fait qu'ils sont vulnérables, ils sont allés dans la drogue, ils ont réveillé un trouble qui était latent et ils commencent à présenter le trouble de comportement.
Docteur Jean-Marie Kachama, est-ce qu'on peut avoir une idée sur la situation épidémiologique en RDC? Est-ce que vous avez des données fiables ou des bribes de données sur le nombre de personnes affectées par les troubles psychiatriques ici en RDC?
Non, nous n'avons pas de données très fiables. Nous avons des données parcellaires. En fait, ce sont des données qui sont rattachées aux études que nous avons réalisées dans notre milieu, soit en milieu psychiatrique au CNPP, soit au niveau de la population, mais dans un grand groupe, par exemple, ceux qui ont travaillé sur les enfants de la rue.
Allô, docteur Jean-Marie?
Vers Massina. Mais ce qu'il faudra peut-être signaler, c'est que ce qu'il faudra signaler, c'est que c'est un problème d'abord général, un problème mondial, parce que quand on parle effectivement de troubles de comportement, il faudrait que la population, le grand public qui nous écoute, sache que ce n'est pas un problème typiquement congolais. Il est mondial, cosmopolite, et actuellement les troubles psychiatriques augmentent parce que nous sommes liés à plusieurs facteurs de stress, et les facteurs effectivement qui sont liés à l'environnement socio-économique, les facteurs qui sont liés à des conditions de guerre, et comme ce qui s'est déclaré en Ukraine, et ce que nous vivons pendant plusieurs années à l'Est, ça peut être aussi des facteurs tout à fait individuels. La personne n'arrive pas à s'adapter dans son nouveau milieu. Tout cela peut apporter des troubles de comportement. Alors, les chiffres chez nous, c'est que nous avons aussi constaté que les choses bougent dans la même dans les mêmes proportions comme ailleurs. Lorsqu'on y a un nouveau phénomène qui arrive, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec
le cas de COVID-19,
Oui, nous avons observé qu'il y avait augmentation de troubles de comportement et beaucoup plus des tableaux dépressifs.
Okay.
Donc, ça a été signalé. Et puis, de plus en plus, comme le phénomène de la drogue est un fléau mondial, et vous avez suivi qu'en fait, quand on a commencé à parler de Bombay, mais ce n'était pas seulement au Congo, ça s'est parlé en France, ça s'est parlé dans d'autres pays africains.
Oui, dans des pays maghrébins, africains et autres, oui.
Oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène de diffusion. Donc, en fait, ce qui se passe ailleurs, les gens essaient de les reproduire aussi dans d'autres milieux. C'est comme ça qu'en fait, à chaque fois, ceux qui prennent les drogues dures, ce qu'on appelle les substances psychoactives, cherchent à tenter une nouvelle expérience par rapport à ce qui s'est dit. Et ça augmente en ce moment-là le nombre de cas présentant des troubles de comportement. Et ces troubles peuvent se présenter juste au moment où la personne commence à présenter les troubles. Ça, on appelle les troubles aigus. Et aussi, ça peut se pérenniser et ça va se chroniciser et ça devient un trouble mental chronique.
Oui, docteur, est-ce que les troubles psychiatriques peuvent aussi être liés à la saison? On dit par exemple qu'à la saison sèche, il y a beaucoup de personnes qui sont exposées à développer des troubles mentaux.
Oui, mais ça a été décrit, ce qu'on appelle les troubles psychiatriques saisonnières, qui surviennent effectivement à certaines périodes de la vie, notamment en période de froid. Vous savez, quand il y a le froid, l'organisme fonctionne différemment et la tendance est que les gens ont moins d'activité, ils restent beaucoup plus cloîtrés dans leur toit. Cela peut effectivement constituer un facteur de risque qui peut réveiller, qui peut faire éclore un trouble de comportement qui était déjà là. Et c'est comme ça que nous avons remarqué chez certaines personnes les récidives qui arrivent presque à la même période, surtout la période de saison sèche. Donc en fait, le climat est aussi un facteur environnemental comme les autres facteurs qui peuvent influer sur l'état psychique de quelqu'un.
Mais est-ce qu'on peut aussi associer la prise de l'âge est-ce que les personnes qui prennent de l'âge sont également exposées à développer des troubles psychiatriques?
Merci. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction que les troubles psychiatriques surviennent à tout âge. C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés à les percevoir chez les tout-petits, mais de plus en plus, on retrouve aussi des enfants qui présentent des tableaux psychiatriques qui sont liés parfois à certaines maladies d'origine congénitale ou à certains troubles tout simplement parce que l'enfant a été violenté dans sa jeunesse et quand il commence à évoluer, généralement autour de 8, 9, 10 ans, l'enfant réagit et présente un comportement anormal qui peut être étiqueté de troubles psychiatriques. Mais les troubles psychiatriques sont l'apanage de jeunes, de jeunes adultes et des adultes d'âge moyen. Mais il faudrait savoir effectivement lorsqu'on évolue en âge, le cerveau se modifie parce qu'en fait tout se passe sur le cerveau. Et certains troubles peuvent se manifester à l'âge adulte et ces troubles généralement sont liés aux facteurs de vieillissement que nous appelons la démence. Lorsqu'on commence à perdre certaines capacités du cerveau, notamment les capacités
mnémoniques,
les capacités de communiquer avec les autres, les capacités de s'associer avec les autres, les capacités
de se souvenir de certains faits.
Voilà, et ces personnes commencent à poser des problèmes. C'est comme ça que vous verrez effectivement dans cette catégorie, vous avez par exemple des égarements des lieux publics, où la personne commence à avoir un propos tout à fait décousu. Et le plus souvent, chez les vieillards, dans notre milieu, on a tendance à les étiqueter comme des sorciers. Et lorsqu'il y a un événement en famille, et que quelqu'un meurt, décède, directement on attaque cette personne qui, malheureusement, commence par l'âge à présenter effectivement des troubles cognitifs qui doivent normalement bénéficier d'une prise en charge pour ne pas laisser le processus évoluer et arriver à une aggravation.
Oui, docteur Jean-Marie Kahembe, il y a également une certaine catégorie de femmes. Lorsqu'elles tombent enceintes, elles développent les troubles psychiatriques et après la délivrance, les troubles passent. Qu'est-ce qui justifie ces phénomènes chez certaines femmes?
Mais vous savez déjà que la grossesse en elle-même entraîne beaucoup de modifications psychologiques chez la femme. Et il faut se mettre aussi dans le contexte, cette femme a-t-elle accepté cette grossesse? Est-ce que c'est une grossesse désirée ou non désirée? est-ce que cette femme, elle est à sa première expérience de grossesse ou elle est à une autre expérience alors qu'elle ne s'attendait pas à avoir une grossesse. Donc, c'est la femme, en plus de modifications psychologiques, il y a tout ce que nous observons comme modifications qui sont liées au fait que les hormones vont augmenter dans certaines proportions. Donc, la femme change de son état physiologique, elle devient vulnérable. Et pendant cette période, lorsqu'il y a d'autres facteurs qui s'associent, lorsque la femme, par exemple, a des difficultés pour pouvoir s'alimenter, se prendre en charge, ça constitue déjà un stress, et ce stress peut faire éclore un trouble de comportement. Et il y a des situations aussi qui arrivent, et généralement, c'est en fin de grossesse, lorsque la femme est prête à se délivrer, donc au moment de l'accouchement, ou juste après l'accouchement, elle peut effectivement présenter un trouble de comportement que nous appelons psychose puerpérale et qui surviennent généralement dans les suites de l'accouchement qui sont liées à plusieurs facteurs. Bien sûr, le facteur de préparation même de cette dame pour l'amener jusqu'à la délivrance, les facteurs hormonaux, comme je l'ai dit, la circonstance d'accouchement et aussi le fait que parfois certaines femmes arrivent à la maternité alors que rien n'a été préparé, l'oreillette de l'enfant est confort, elle est stressée, elle peut en ce moment-là modifier son comportement et présenter un trouble de comportement. Voilà certains facteurs qui peuvent provoquer. Parfois aussi, c'est tout simplement lié au fait que une dame qui est allée pour accoucher par voie basse et brutalement, sans préparation, on est obligé de passer par une césarienne. Vous savez que la césarienne, elle est assez traumatisante. Donc, tout ça peut modifier le mental de quelqu'un, le mental de cette dame qui est déjà au départ fragilisée, vulnérable, et elle peut présenter des troubles de comportement. Mais aussi, c'est lié à la naissance. Parfois, lorsque, comme je vous ai parlé tout à l'heure, de grossesse non désirée et que le produit de conception est là, la femme rejette l'enfant. L'enfant n'accepte, la femme n'accepte pas cet enfant-là parce qu'elle a été peut-être source de viol ou elle a été source d'un processus de non-compromission pour que son partenaire l'accompagne dans ce processus. Tout cela peut effectivement provoquer des troubles comportementaux.
Les troubles psychiatriques... Oui, allez-y.
Oui, et ce qui se passe effectivement à l'Est, avec les femmes qui sont violées et qui doivent porter des grossesses dont ils ne connaissent pas...
Non désirées,
Les partenaires, vous savez que ça traumatise le psychisme de la personne. Donc on s'entendrait effectivement aussi à cette période qu'il y ait des variations et qu'il y ait effectivement des troubles de comportement. Mais ces troubles de comportement aussi peuvent survenir tout simplement sur un terrain qui est fragile. Une personne qui a l'habitude de présenter des troubles de comportement et qui se retrouve pendant la période de grossesse, lorsque le psychiatre n'est pas impliqué, et il y a risque effectivement que à l'accouchement ou dans les périodes qui suivent l'accouchement, qu'il y ait des modifications de comportement avec des troubles psychiatriques.
Oui, docteur Jean-Marie Kachama, dites-nous, est-ce que l'environnement, nous prenons par exemple le cas de la ville de Kinshasa, où il y a des embouteillages en permanence du matin au soir, l'environnement, il y a beaucoup de bruit. Est-ce que ces facteurs peuvent également être à la base des troubles de comportement, docteur?
J'avais déjà évoqué ce qu'on appelle le facteur environnement. En fait, quand on parle de facteur environnement, on voit le concept socialisation. Est-ce que chacun de nous s'adapte de manière prompte à tout ce qu'il y a comme modification au niveau de notre vie? C'est une question. Il y a des gens qui ne supportent pas déjà le fait de voir que en si peu de temps, le nombre de véhicules ont augmenté, et les embouteillages se créent et il y a des gens qui viennent nous consulter tout simplement parce qu'il a peur de sortir, parce que il y a beaucoup de gens dehors, il y a beaucoup de véhicules, ça crée un stress en la personne et ça provoque effectivement un aspect un peu particulier qui peut aller jusqu'à un trouble dépressif. Mais il faut savoir effectivement que le trouble de comportement, c'est une conjonction ou une association de troubles de la personnalité de quelqu'un, des facteurs que vous avez, des facteurs génétiques que vous avez et des facteurs que la personne subit au cours de sa vie. Et tous ces facteurs qui peuvent venir aussi de l'environnement peuvent modifier effectivement le comportement de quelqu'un. Une fois de plus, l'exemple, c'est celui de la guerre injuste à l'est de notre pays, où les personnes qui vivaient paisiblement dans leur milieu, dans leur écologie, et se retrouvent brutalement sous le coup effectivement de méchants, des gens qui veulent bien nous déstabiliser et qui les poussent à sortir de leur écologie. Vous savez que lorsque vous n'êtes pas dans votre milieu naturel, le psychisme aussi réagit et ça peut constituer un des facteurs qui peuvent créer le type de comportement. Les facteurs socio-économiques, la vie
chère, la cherté de la vie
difficile, la pauvreté, les difficultés d'accessibilité aux structures de santé qui sont les nôtres pour la prise en charge de maladies et que la personne se voit abandonnée et il n'est pas capable effectivement d'aller se faire soigner, ça aggrave les troubles de comportement et ça permet effectivement c'est que la personne évolue vers un tableau beaucoup plus compliqué et beaucoup plus chronique. Vous voyez, voilà un peu un certain nombre de facteurs qui peuvent jouer ou influer sur le psychisme de tout un chacun. Mais vous savez que nous avons des organismes différents.
Oui.
Parce qu'on va se poser la question, mais pourquoi tel ou pourquoi pas tel autre? Non, chacun, le mécanisme ou les réactions d'adaptation et dépend effectivement d'un individu avec un autre. Vous savez, pour un même facteur, quelqu'un peut prendre ça comme un facteur assez grave et quelqu'un d'autre va essayer de gérer par des mécanismes effectivement de conversion et utiliser effectivement en ce moment-là la résiliation pour résister à ce genre de facteurs.
Docteur Kachama, nous vous gardons en ligne. Les troubles psychiatriques ou les troubles de comportement, quelles sont les causes et comment les soigne-t-on? Nous en parlons dans cette première partie du magazine Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, envoyez-nous des vives voix, vos commentaires sonores par WhatsApp au numéro 099-706-9941. Par SMS, envoyez-nous vos questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans le courriel dénommé service@radiokapi.net.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiokapi.net.
Docteur Jean-Marie Kachama, nous allons dans la deuxième partie de notre entretien aborder la problématique liée à l'accompagnement socio-médical des patients affectés par les troubles des comportements ou par les troubles psychiatriques. Il y a d'ailleurs un commentaire d'un auditeur qui nous a écrit depuis la ville de Bukavu au site Kivu. Il nous dit ceci: nous rencontrons vraiment des personnes affectées par certains troubles psychiatriques dans nos différents milieux, dus aux différents problèmes de la vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand une famille n'a pas assez de moyens pour amener les patients dans un centre psychiatrique spécialisé pour des soins adéquats? Et comment devons-nous nous comporter devant un patient qui manifeste ce genre de troubles de comportement en cas d'urgence? Comment répondez-vous, docteur Jean-Marie, à cet auditeur du Sud Kivu, de Bukavu, pardon, il s'appelle Joseph?
Oui, mais je pense que ce qui est important à dire, c'est d'abord de reconnaître le trouble. C'est ce qui est plus important. Et je pense qu'il faudrait pas cacher la maladie. Le plus souvent, on se retrouve dans des complications lorsque on tente de cacher la maladie ou on commence, ou on cherche à donner une autre connotation aux troubles qui sont là en présence. Et vous savez que la tendance chez nous, c'est de croire qu'il faut enlever les mauvais sorts. On a tendance effectivement à ramener le tout au niveau spirituel. Mmh. Et là aussi, c'est quand même, c'est devenu un problème dans notre milieu. Parce que certaines personnes traînent en famille, traînent auprès des églises et les troubles s'aggravent. C'est parfois lorsque on se retrouve devant un état d'agitation que c'est la personne est en ce moment la conduite dans les centres de prise en charge. Je voudrais d'abord rassurer notre
internaute.
Oui, pour dire qu'en fait, les troubles de comportement, il y a toujours solution. La prise en charge, elle existe. Elle est certes différente d'un cas à un autre. Je crois qu'il faudra se référer aux personnels qui sont habilités à prendre le cas en charge. Et vous savez, vous venez de dire vous-même que le trouble de comportement sont liés à plusieurs facteurs de la vie. Et donc, alors, pour que nous puissions prendre correctement la personne en charge, nous devons connaître l'histoire de sa maladie, dans quel contexte les troubles ont ressurgi, et c'est de cette manière-là que le thérapeute, qui est le plus compétent, le psychiatre ou le neuropsychiatre, saura comment il faut prendre la personne en charge. Parce que la prise en charge a plusieurs volets. Hein.
Oui.
Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le volet médicamenteux. C'est lorsqu'on recourt à des médicaments.
À la chimiothérapie.
Nous devons toujours aussi, oui, les traitements médicaux. Mais aussi, il y a le praticien hein, ou la personne qui soigne les troubles de comportement doit continuer à rechercher un facteur étiologique. Est-ce qu'il y a-t-il un facteur étiologique qui a déclenché les troubles de comportement, ce que nous appelons les facteurs précipitants ou les facteurs déclenchants. Nous devons effectivement trouver solution à ça. Et parfois, on recourt à des examens spécialisés, qui peut être une prise de sang, qui peut être un examen important, donc où on regarde le fonctionnement, l'état du cerveau, ou on peut recourir au scanner, parce que le trouble de comportement, comme vous avez posé la question, peut être lié à d'autres causes, ce que nous appelons des causes organiques. Ça peut être une infection, ça peut être une tumeur, ça peut être quelqu'un qui, dans les suites d'un accident vasculaire cérébral, ce que nous appelons les AVC, a développé effectivement des signes apparentés aux troubles de comportement ou des signes francs de troubles de comportement, comme les personnes qui ont perdu effectivement leur capacité physique, ils sont très facilement, ils se dépriment facilement. Mais aussi, il y a le volet le plus important, c'est ce que nous appelons, un autre volet le plus important, c'est ce que nous appelons la psychothérapie.
Oui.
Et cette psychothérapie, c'est l'accompagnement par le thérapeute du malade en essayant d'enlever tout ce qui est comme facteur qui pèse sur la personne et essayer de résoudre le problème avec la personne, sans pour autant lui donner d'édicter en fait des orientations, mais nous essayons de voir avec lui quels sont les facteurs qu'on peut éliminer comme facteurs de stress qui peut permettre à la personne, en plus du traitement médicamenteux, de bien se comporter. Mais il y a aussi un autre aspect important, c'est l'environnement.
Oui.
C'est l'entourage du malade. Donc, l'entourage du malade doit être constitué aussi un maillon important parce que associé au thérapeute, le plus souvent le psychiatre, nous pouvons en fait essayer de planifier, essayer de mettre un autre conditionnement pour permettre effectivement au malade de bien récupérer. Et d'ailleurs, l'exemple aujourd'hui, c'est que on a constaté en fait que le trouble de comportement, les malades qui présentent des troubles de comportement sont mieux suivis en milieu africain qu'en milieu européen, parce qu'en milieu européen, les patients sont beaucoup plus enfermés, ils sont abandonnés à eux-mêmes, ils se retrouvent
encore déprimés davantage,
dans un état d'isolement, dans un état d'isolement et de confinement qui aggrave encore de nouveau la situation. Alors que chez nous, nous avons la communauté qui est là. D'ailleurs, lorsqu'il y a un trouble de comportement, la communauté a l'impression d'avoir qu'il y a une rupture, effectivement, de leur milieu de vie. Ils viennent et lorsqu'ils s'intègrent dans le processus de prise en charge, le résultat est tout à fait meilleur.
Oui, docteur. Alors, Jean-Marie, s'il vous plaît, docteur Jean-Marie, il y a un autre commentaire, hein, comme ça vous allez continuer dans l'argumentaire. Il y a Simon Kalukanda qui nous écrit, hein, depuis la ville de Kananga au Kasaï central. Il nous révèle ceci: les centres Mpadilou de Kananga enregistrent du jour au jour le jour, hein, des cas de troubles psychiatriques et de santé mentale généralement confondus avec la folie. Quelle différence existe-t-elle entre la folie et les troubles de comportement? C'est Simon, depuis la ville de Kananga, qui nous a posé ces questions. À vous la parole.
Oui, merci Simon. Je crois que la question de Simon va éclairer aussi les autres auditeurs qui nous suivent. Vous savez qu'on a tendance à utiliser les termes péjoratifs. Des termes qui, généralement, beaucoup de gens n'acceptent pas. Lorsque vous parlez de folie, et vous savez, même le malade lui-même, et même son entourage, parfois les gens disent, non, ce n'est pas ça, c'est autre chose. Moi, je préfère effectivement dire trouble mental, trouble psychiatrique, parce que ce que vous appelez la folie, c'est tout simplement, nous appelons ça la manie. Dans les troubles de comportement, il y a plusieurs entités, il y a plusieurs formes ou plusieurs tableaux de troubles de comportement. Et parmi les tableaux, il y a ceux qui présentent une agitation extrême, qui sont très agités, capables de passer à l'acte, taper les autres, avoir des idées de grandeur. C'est cette catégorie de personnes que nous appelons manie, que beaucoup de gens appellent folie. Mais le plus souvent, les gens ont tendance à étiqueter tout trouble de comportement comme étant une folie. Non, mais personne n'est à l'abri, effectivement, d'un trouble de comportement, parce que chacun de nous, au cours de sa vie, a déjà peut-être frôlé une dépression. Cela ne signifie pas que c'est une folie.
Oui.
Donc nous devons extriper dans notre langage des termes péjoratifs qui ne permettent pas effectivement à mieux prendre le malade en charge, à mieux l'accompagner effectivement dans les structures de prise en charge. Le conseil que moi je donnerais, c'est lorsque vous avez un dérèglement dans le comportement de quelqu'un. Lorsque vous voyez qu'il y a une modification de comportement, la personne n'est pas celui qui était hier. Il faut toujours faire attention et l'accompagner effectivement dans les soins. Un autre élément que je voulais effectivement signaler dans la prise en charge, c'est ce qu'on appelle l'insertion sociale. La prise en charge ne se limite pas seulement au niveau de médicaments. Elle ne se limite pas au niveau de la prise en charge en milieu hospitalier ou dans le cabinet du médecin. Elle doit pouvoir se prolonger, elle doit se prolonger plus loin, peut-être pendant 2-3 ans, lorsque nous avons une stabilité ou une stabilisation de paramètres psychiques. Mais la personne doit rentrer dans sa société, il doit être utile à la société.
Tout à fait.
Nous devons voir qu'est-ce que nous pouvons faire, et vous voyez l'aspect sociothérapie qui intervient là-dedans, ou l'aspect thérapie occupationnelle. Donc on doit pouvoir occuper pour essayer de remettre les valeurs chez la personne et qu'il soit utile à cette même société qui l'a accompagné pendant la prise en charge.
Donc c'est une thérapie, docteur, qui s'étale sur une période assez longue, ça dépend d'une personne à une autre.
Non, ça dépend pas d'une personne à une autre, mais ça dépend de la forme du trouble mental que la personne, ou des troubles psychiatriques que la personne. Il y a des troubles qui sont tout à fait aigus, et bref, qui peuvent passer, qui peuvent se terminer même parfois soi-même sans qu'il y ait une intervention spécifique médicamenteuse, mais aussi il y a des troubles qui ont tendance à récidiver avec beaucoup de rechutes et à se chroniciser, et là je crois que la prise en charge doit être assez planifier un projet thérapeutique correct qui peut permettre à la personne. Et, mais ça revient au psychiatre de pouvoir évaluer les types de cas. Comme je vous ai dit que nous avons des troubles qui sont des troubles aigus et puis des troubles qui sont chroniques. Lorsque le tableau est chronique, donc la prise en charge va être aussi prolongée.
Oui, cette fois-ci, docteur Jean-Marie Ganchama, nous allons à Boutembo lire la réaction, les commentaires de Kasereka Moussoubao qui nous dit ceci, hein, c'est comme s'il y a actuellement de nombreux charlatans qui prétendent traiter ces troubles de comportement, notamment des guérisseurs ici au niveau de la ville de Boutembo, au Nord Kivu. Qu'est-ce que vous dites à propos du commentaire de Kasereka Moussoubao qui nous a écrit depuis la ville de Boutembo, au Nord Kivu?
Oui, je voudrais aussi faire une prolongation de la question de M. Simon, qui a constaté que le nombre de cas augmente. C'est tout à fait normal, parce que vous savez que l'environnement change. Lorsque l'environnement change, lorsque les gens sont en situation de précarité, lorsque nous nous retrouvons confrontés à de nouveaux phénomène, nous avons vécu ici le Covid.
À Kananga, c'était dans les Kasaï, les Kambona Sampou.
Ouais, voilà, je voulais d'ailleurs dire, lorsqu'on se retrouve effectivement avec des situations où les gens qui étaient déjà partis parce qu'ils étaient chassés par la guerre et qui sont revenus et qui doivent pouvoir se repiquer et se réinstaller dans leur milieu, et il faudrait qu'il y ait des mécanismes d'accompagnement, le processus effectivement de prise en charge. C'est pour cela qu'il y a la plus grande dimension santé mentale qui intervient. Et la santé mentale, le patron principal de la santé mentale, c'est l'État. Et quelles sont les structures que l'État a organisées pour la prise en charge des personnes vulnérables, des personnes qui étaient en situation difficile? Lorsqu'ils reviennent dans leur milieu, comment a-t-on organisé, quels sont le processus d'accompagnement, d'insertion, mise en place pour que ces personnes ne se retrouvent pas dans des cas où ils présentent des troubles de comportement? C'est normal que la situation augmente. Alors, pour ce qui concerne la question de notre ami de
Boutembo,
c'était encore quoi pour que je puisse être plus précis?
Oui, l'auditeur de Boutembo a voulu savoir, hein, il a dit qu'il a remarqué qu'il y a un nombre croissant de charlatans à Boutembo des guérisseurs qui se permettent, ont la prétention de soigner les troubles de comportement.
Je pense que je l'avais déjà un peu effleuré lorsque je parlais des églises. De certaines méthodes et prophéties où les gens disent qu'ils sont capables de pouvoir exorciser les troubles psychiatriques et souvent on se retrouve dans un processus de pérennisation, dans un processus de prolonger la maladie et de la rendre chronique. Et de même, effectivement, que dans notre milieu, sans que je puisse faire un conflit avec nos milieux culturels, nos valeurs culturelles, mais de plus en plus, il y a des pseudo-thérapeutes, des charlatans qui, en fait, tentent de faire des choses qui ne sont pas exactement correctes et qui maintiennent le malade parfois dans leur milieu enchaîné, et vous trouvez un malade chez des charlatans avec des chaînes et parfois on lui met des bougies sur la peau et la personne se retrouve avec des brûlures. Et vous voyez déjà qu'en fait nous rentrons à l'ancien temps où nous étions on ne comprenait pas le phénomène et les mécanismes psychiatriques, alors que les choses sont de plus en plus claires et lucidées et que nous avons la possibilité d'utiliser des molécules plus efficaces qui peuvent permettre un retour à l'état psychiatrique normal. Mais il y a des gens qui continuent à s'évertuer, à donner effectivement des traitements inappropriés, des traitements traditionnels. Mais là aussi, c'est tout simplement un problème d'organisation, un problème d'accessibilité aux soins, un problème de structure. Pensez-vous que celui qui est à Boutembo à plusieurs milliers de kilomètres
de Kinshasa ou de Goma,
de la ville de... Oui, de la ville de Bounia. Est-ce qu'il est-il capable de trouver un thérapeute pour le prendre en charge? Bon, parfois les gens sont obligés de recourir à des thérapeutes de fortune pour essayer de trouver une solution.
Oui.
Mais je crois que ce qui est conseillé, c'est de ramener les gens dans des centres qui sont spécialisés, qui ont des spécialistes, qui ont des gens à même de pouvoir aborder ces problèmes de troubles de comportement.
Nous allons dans les 10 dernières minutes de notre entretien, docteur Jean-Marie Kachama. Vous êtes un neuropsychiatre, je le rappelle, tablé sur les moyens de prévention, l'hygiène de vie à adopter hein, pour éviter les troubles de comportement.
Ben, vous avez cité déjà un mot qui m'intéresse, l'hygiène de vie. Mais l'hygiène de vie, c'est quoi? C'est un ensemble de mesures qui sont organisées non seulement par la famille, l'individu, la famille, mais c'est la communauté, c'est l'implantation effectivement de toutes les mesures de prise en charge au niveau de l'État. C'est ça qui va améliorer effectivement les conditions de prise en charge et les conditions d'accessibilité de nos malades. Et vous savez en fait que l'être humain, il est ce qu'il est, hein. Il est, c'est ce qu'il mange, c'est ses habitudes, c'est sa vie sociale, c'est tous les phénomènes qui s'organisent autour de lui, c'est l'évolution de la société. Nous sommes dans une évolution de compétition, de mondialisation. La société congolaise ne doit pas être exactement la même que celle de 1980.
Oui.
Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Nous devons avoir l'émergence effectivement d'un certain nombre de structures. Et vous savez que tout ça doit être planifié. C'est comme ça que moi j'insiste sur la dimension santé mentale. Cette dimension, elle est assez importante parce qu'en fait c'est ça qui permet effectivement de mettre l'homme au centre, parce qu'elle fait partie d'abord de la dimension complexe de la santé, et elle nous permettra effectivement d'éviter beaucoup de chocs, d'éviter à ce que nous puissions avoir un nombre croissant des patients psychiatriques, et d'organiser aussi même la structure. Aujourd'hui, nous allons parler des élections. Vous savez comment la période des élections, elle est assez chaude.
Oui.
Et comment les gens se comportent. Est-ce qu'on a dû, on a prévu des personnes qui doivent pouvoir parler de comportement et de ceux qui prétendent à la députation et le comportement des électeurs pendant cette période ici? Donc nous avons un très grand fossé, et la notion santé mentale, elle est mise en arrière.
Oui, et docteur, docteur Jean-Marie, oui. Cette spécialité de la médecine de santé mentale doit se rapprocher de la communauté dans les hôpitaux généraux de référence, c'est très important.
Mais c'est ce que nous plaidons chaque jour, c'est ce que nous demandons, c'est ce que nous voulons effectivement, qu'on prenne en compte cette très grande dimension sociétale qui permet effectivement d'améliorer le vivre ensemble, d'améliorer les capacités de contact entre les individus, de renforcer la capacité cognitive et psychique des personnes, et de mettre des mécanismes d'adaptation, de résilience, qui permettent à ce que nous ne puissions pas nous retrouver encore dans des situations où le nombre augmente et nous n'arrivons pas à faire face à la prise en charge de ces malades.
Et
vous savez que jusqu'à preuve du contraire, les soins en santé mentale coûtent excessivement cher.
Un auditeur l'a relevé d'ailleurs.
Oui, allez-y.
Je disais que l'auditeur de Kananga l'a relevé d'ailleurs. Beaucoup de patients ne savent pas aller à l'hôpital parce que ça coûte cher les soins de santé mentale.
Oui, mais c'est pour cela que nous insistons et que nous voulons que l'État nous prenne comme des vrais acteurs, des acteurs qui doivent non seulement participer à plusieurs processus, même ce que nous appelons le processus de changement de mentalité. Lorsque vous voulez transformer votre société et que les personnes n'ont pas une santé mentale saine, mais nous allons piétiner, nous allons avoir beaucoup de difficultés. Je crois que la santé mentale doit être une priorité, il ne doit pas être mis à l'arrière-plan, parce que c'est celle qui accompagne la personne au quotidien, dans sa vie, dans la vie en communauté, dans sa vie de tous les jours. Et aussi, il faudrait qu'il y ait des mécanismes de facilitation pour permettre effectivement, parce qu'aujourd'hui on parle de la couverture santé universelle, et vous verrez effectivement que dans cette dimension de couverture santé universelle, on parle très peu de la santé mentale. Et on ne met pas l'accent sur les acteurs qui doivent effectivement venir réfléchir autour de cette santé universelle. Lorsque vous parlez de la reproduction, vous ne pouvez pas parler de la reproduction, vous ne pouvez pas parler de la procréation sans dimension santé mentale. Sinon, nous allons nous retrouver effectivement avec des cas de grossesse à problème, des cas des enfants qui naîtront traumatisés et parce qu'en fait, ils ont été conçus dans des conditions difficiles. Mais ce sont ces enfants-là qui sont l'avenir du Congo demain.
Oui.
Ce sont ces enfants-là que nous allons accompagner, et que nous allons les attendre dans le milieu éducatif pour que demain, ils puissent effectivement faire les valeurs humaines de notre République par rapport à d'autres sociétés. Mais lorsque cette dimension elle est négligée, et on aura beaucoup de problèmes à plusieurs niveaux.
Oui, docteur Jean-Marie, dernière question. Le stress est un facteur très important qui peut aussi engendrer les troubles de comportement ou les troubles psychiatriques. Dans la vie de tous les jours, on est exposé au stress. Quelles sont les quelques astuces que nous pouvons utiliser pour mieux gérer les stress auxquels nous sommes exposés tous les jours?
C'est une très bonne question. On a déjà évoqué que le stress peut être déjà une source effectivement ou un facteur déclenchant ou précipitant de troubles psychiatriques. Mais vous savez qu'en fait le stress n'a pas seulement le côté négatif.
Oui.
Il y a le côté motivationnel,
motivation,
le côté positif,
compétitif, oui.
Donc maintenant là, vous comprenez en fait quand on parle déjà du stress, il y a une dimension santé mentale là-dedans qu'il faudra relever. Comment les personnes vivent-elles dans leur communauté? Est-ce qu'il y a des mécanismes qui permettent effectivement à ce que nous puissions protéger notre condition, notre état psychique, et comment peut-on faire face effectivement à tous ces changements qui viennent vers nous. Nous avons évoqué effectivement la COVID-19 qui est venue et qui s'est généralisée dans le monde. Nous avons été affectés et vous avez vu comment nous avons vécu pendant la période de COVID avec parfois de confinement, avec des mesures assez drastiques. Tout cela doit être pris en compte pour que nous puissions éviter d'augmenter effectivement les facteurs de stress. Les facteurs de stress, c'est chaque jour, lorsque vous vous réveillez et que vous devez prendre votre transport. Est-ce que je vais arriver à destination avec tout ce que nous vivons comme phénomène d'enlèvement, celui qui doit terminer son boulot en retard et qui doit rentrer dans un quartier qui est peu sécurisé, qui n'est pas éclairé, est-ce que est-il sûr d'arriver? Et parfois c'est des appels à distance pour demander à tout le quartier de se mettre sur l'avenue pour que la personne rentre
accède dans
la
maison.
Oui, le stress, il est là, il est permanent, il est permanent et nous devons le gérer, mais pour le gérer, je pense qu'il faudrait mieux insérer cette dimension santé mentale qui doit entrer dans plusieurs domaines, même dans les domaines professionnels. Ces travailleurs qui arrivent le matin et qui doivent travailler parfois sans horaire précis, sous la pression de leur patron, dans des contextes où ils n'ont même pas des tenues de protection. Ça constitue effectivement le stress. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de dimensions qu'on ne saura pas développer en 45 minutes et je suis tout à fait disposé de revenir et d'en parler avec vous et de sensibiliser la population et que vous devez vous aussi en tant que radio relayer nos messages pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de gens mais aussi sensibiliser surtout les décideurs politiques, les décideurs ceux qui ont la gestion de l'État au quotidien, qu'ils sachent qu'il y a des personnes, des acteurs qui sont prêts à pouvoir composer avec eux, travailler avec eux pour le bien-être de notre population en matière de santé mentale.
Oui, docteur, certaines habitudes saines telles que l'alimentation, la bonne alimentation, l'activité physique et les repos sont vivement aussi recommandés pour garder une bonne santé mentale.
Mais nous les intégrons dans la prise en charge de nos malades. Et nous essayons de voir, parce qu'en fait la prise en charge des malades, c'est chaque patient c'est un cas. Même si vous présentez la même forme de maladie, mais la manière de manager par un spécialiste, par les psychiatres que nous sommes, c'est toujours différent parce que nous savons effectivement quelles sont les choses que nous devons devoir recommander à certaines personnes. Vous savez que certaines personnes, surtout dans les milieux ruraux, ceux qui présentent des troubles de comportement, ils vivent la discrimination, le rejet, l'abandon, et ils sont parfois privés d'un certain nombre de choses, même le droit à l'alimentation. Ils arrivent parfois à l'hôpital dans un état cachétique. Et lorsque nous devons le prendre en charge, je crois qu'il y a la dimension alimentaire qui entre en ligne de compte. Donc il y a plusieurs facteurs. Il faut impacter sur la dimension qualité de sommeil. Il faut impacter sur la dimension un environnement sain où il y a moins de bruit, et vous savez que de plus en plus parfois on est soumis à des nuisances de tout genre même avec nos véhicules. Je crois que si vous avez l'occasion de voyager dans les États occidentaux, il y a des paysans qui demandent à l'État de mettre des murs de protection pour essayer de diminuer les sons, pour que les sons ne puissent pas déranger effectivement la qualité de leur sommeil.
Oui, donc, monsieur le chef, s'il vous plaît. Oui, monsieur le chef des travaux, Jean-Marie Kachama, merci d'avoir été avec nous. C'était très intéressant l'entretien qu'on a eu. Donc, j'espère que ce n'est qu'une partie remise. Nous allons revenir vers vous pour développer d'autres sujets dans les domaines de santé mentale. Le temps imparti à cet entretien est épuisé. Merci d'avoir été avec nous et excellente journée.
Merci aussi à vous, et je reste disposé à chaque fois que vous avez les soucis de présenter un sujet effectivement d'intérêt public, nous sommes disposés.
Radio Kapi, le souffle du Congo.